Chapitre 76. La famille ne se détruit pas, elle se transforme. Une part d'elle va dans l'invisible. Septembre 1996. Ce matin-là, après avoir promis à Violette que Geneviève Magnan ne serait pas enterrée dans le cimetière de Brancion, Philippe avait d'abord pris la direction de Mâcon, puis, au dernier moment, il avait continué et était descendu jusqu'à Lyon, puis Bron. Il était arrivé en milieu d'après-midi devant le garage Pelletier. Il s'était garé suffisamment loin pour ne pas être vu. Le garage était comme dans ses souvenirs, des murs blancs et jaunes. 13 ans qu'il n'avait pas mis les pieds ici, et bien qu'il soit trop loin, il avait pu sentir les huiles de moteur mélangées, cette odeur qu'il aimait tant. Seuls les modèles et lignes des voitures exposées qu'il apercevait à travers sa visière avaient changé. Il avait gardé son casque sur la tête pendant des heures. Il avait attendu longtemps pour les voir. Vers 19h, en apercevant Françoise et Luc côte à côte dans leur Mercedes, elle au volant, lui à ses côtés, son cœur s'était déchaîné comme un boxeur fou. Il avait cogné jusque dans sa gorge. Les feux arrière du véhicule avaient disparu depuis un long moment, quand Philippe s'était rappelé les plus beaux moments de sa vie avec eux. Ces moments où il s'était vraiment senti aimé et protégé. Ces moments où personne n'attendait rien de lui. Ces moments loin de ses parents. Il n'avait pas suivi la Mercedes. Il voulait juste les voir, être sûr qu'ils étaient encore là, vivants. Juste cela, vivants. Puis il avait pris le chemin de la Bichauchaille, ce lieu maudit où habitaient Geneviève Magnan et Alain Fontanelle. Il avait roulé de nuit. Il aimait rouler à moto, la nuit, la poussière et les papillons dans les phares. Il s'était garé devant chez eux. Une des pièces du rez-de-chaussée était éclairée. Malgré les circonstances, Philippe n'avait pas hésité à frapper à la porte. Alain Fontanelle était seul, passablement éméché. Le cocard que Philippe lui avait fait 2 semaines auparavant s'était presque résorbé. « Geneviève s'est foutue en l'air, tu pourras pas tirer ton coup ce soir. » Voilà ce que Fontanelle avait dit quand il avait découvert Philippe dans l'embrasure de la porte. Ces mots lui avaient coupé les jambes et donné des haut-le-cœurs. Philippe avait failli gerber. Comment avait-il pu tomber si bas? L'homme qui se tenait devant lui était de la pire espèce, mais lui l'était tout autant. C'est lui qui avait eu une liaison avec Magnan, lui qui un soir l'avait prêté à un pote sans aucun scrupule. Philippe avait eu un vertige en y repensant. Il s'était appuyé contre le chambranle. Ce soir-là, devant cet homme saoul qui le toisait, Philippe avait compris combien Magnan avait souffert le martyr au contact des 2 salauds qu'il avait piétinés, lui et Fontanelle. Et cette souffrance l'avait traversé comme un vent glacial. Comme si le fantôme de Geneviève Magnan l'avait transpercé avec la lame d'un long couteau. La nuit s'était abattue sur lui. En le voyant défaillir, Fontanelle avait eu un sourire mauvais et lui avait tourné le dos sans refermer la porte d'entrée. Philippe l'avait suivi dans un couloir sombre. À l'intérieur, cette odeur de renfermé, cette odeur de rance, de graisse et de poussière amalgamée, comme dans ces endroits où jamais on ne laisse l'air entrer, où jamais ni chiffon ni serpillière ne sont passés. Philippe avait pensé à Violette qui aérait même en hiver. Violette. En suivant Fontanelle, Philippe avait eu une violente envie de la serrer dans ses bras, la serrer comme jamais il ne l'avait fait, mais comme l'avait sans doute fait le vieux du cimetière. Les 2 hommes s'étaient assis à la table de la salle à manger. Une salle à manger avec rien à manger, juste des 10aines de canettes de bière vides posées sur une toile cirée. 2 ou 3 cadavres de bouteilles de vodka et autres alcools forts. Et comme si le diable s'était invité entre ces murs maudits pour leur tenir compagnie, il s'était mis à boire en silence. Ce n'est que bien plus tard que Fontanelle avait parlé, lorsque Philippe avait posé ses yeux, sans pouvoir les en détacher, sur le portrait de 2 jeunes garçons. 2 sourires encadrés à l'angle d'un buffet sans âge et dégueulasse. un cliché d'école. Quand après la photo de groupe, on isole les fratries pour donner d'autres souvenirs aux parents. Les gosses sont chez la sœur de Geneviève, ils sont bien mieux avec elle qu'avec moi. J'ai jamais été un bon père. Et toi? Pour la mort des petites, pour ta gosse, Geneviève, elle y était pour rien. Je veux dire, elle a rien fait exprès. Moi, j'ai que la fin de l'histoire, quand elle est venue me réveiller. Je roupillais, j'ai cru que je faisais un cauchemar. Elle m'a secouée, on aurait dit une dingue. Elle chialait et beuglait en même temps. Je comprenais rien à ce qu'elle baragouinait. Elle m'a parlé de toi, m'a dit que ta fille était là, le remplacement à l'école de Malgrange, le destin méchant comme une teigne. Elle m'a parlé de sa mère, j'ai cru qu'elle avait picolé. Elle m'a tiré par le bras en gueulant « Viens, viens vite, c'est effroyable, effroyable !» Elle avait jamais dit des choses comme ça, Geneviève. Quand je suis arrivée dans la chambre du bas, il n'y avait plus rien à faire. Fontanelle avait bu une canette cul sec, suivie d'un verre de vodka. Il avait reniflé un grand coup, puis craché ses mots en fixant une entaille dans la toile cirée, l'avait grattée du bout des doigts. La Dierlo, la croque vieille, elle me payait à coups de lance-pierre pour faire l'entretien. Électricité, plomberie, peinture, espace vert. Espace vert, je t'en foutrais des espaces verts. De l'herbe et de la caillasse. Geneviève, elle faisait les courses et la cuisine pendant l'été. La Dierlo, elle rallongeait pour qu'on dorme tous les deux sur place quand les gosses débarquaient. Pour faire de la surveillance et de la présence en plus. Ce soir-là, Geneviève aurait pas dû bosser. Mais quand les mômes sont allés se coucher, Lucie Lindon a demandé à Geneviève de la remplacer 2 heures pour surveiller les chambres du rez-de-chaussée. Lindon voulait monter à l'étage pour fumer un joint dans la chambre de l'hôtelier. Geneviève a pas osé dire non. La Lindon lui donnait tout le temps des coups de main. Mais Geneviève est pas restée au château, elle s'est tirée. Elle a laissé les petites toutes seules pour aller chez sa sœur, voir nos gosses, parce que notre dernier était malade et qu'elle se faisait du mouron. L'été, ça la rendait barjot de devoir les laisser pendant que d'autres partaient sur des plages. Elle me le reprochait. « T'es qu'un bon à rien, même pas foutu de nous emmener sur une plage. » Fontanelle était partie pisser en sifflant « Vie de merde !» En revenant dans la salle à manger, il s'était assis de l'autre côté de la table, à une autre place, comme si la sienne avait été prise par quelqu'un pendant son absence. Geneviève a dû se tirer 1 heure à tout casser. Quand elle s'est ramenée, qu'elle a poussé la porte de la chambre 1, sa tête s'est mise à tourner, elle s'est cassée la gueule par terre. Déjà l'après-midi, elle avait à moitié tourné de l'œil. Elle a cru qu'elle était malade, qu'elle avait chopé le virus de notre gosse. Elle a eu du mal à se relever. Elle a ouvert la fenêtre pour respirer un grand coup, c'est ce qui l'a sauvée. C'est 5 minutes après qu'elle s'est dit que quelque chose clochait, que les petites dormaient trop bien. Geneviève n'a pas compris tout de suite. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui sent pas. Dans chaque chambre, il y avait un chauffe-eau individuel qui datait de Mathusalem. Une vieille carcasse qui fonctionnait plus du tout et qu'on n'avait pas le droit de toucher. Pourtant, quelqu'un l'avait fait. Geneviève s'en est tout de suite rendu compte, parce que ces putains de bazars étaient planqués derrière un faux placard et que celui-là avait été ouvert. La porte pendouillait dans le vide. Alain Fontanelle avait ouvert une autre canette avec un briquet qui traînait sur la table sans cesser de parler. On savait tous que les installations étaient pourries dans le château. Une vraie bombe à retardement, j'ai rien pu faire. C'était trop tard. Asphyxié. Intoxiqué au monoxyde de carbone. Les 4! Fontanelle s'était tue. Sa voix avait trahi une émotion pour la première fois. Il avait allumé une cigarette en fermant les yeux. J'ai tout de suite coupé le chauffe-eau. J'ai même retrouvé l'allumette qui avait servi à le redémarrer. Geneviève, elle n'a jamais su mentir. Quand tu te la tapais, je le savais. Elle avait des yeux d'amouraché, une vraie tarée. Elle puait la cocotte, se mettait des trucs sur la figure, des grolles qui lui ravageaient les pattes. Ce soir-là, j'ai vu dans ses yeux que c'était pas elle qui avait fait ça. Qu'elle y était pour rien. J'ai vu sa trouille. Elle puait la mort. Et puis, fallait s'y connaître pour démarrer un vieux bazar comme celui-là. Elle en aurait pas été capable. Il y avait interdiction formelle de toucher aux anciens chauffe-eau du château. Et tout le personnel était au jus. On nous le rabâchait suffisamment. C'était pas écrit dans le règlement, sinon la Dierlo, elle serait allée direct en tôle. Mais nous, on savait. Elle aurait dû les faire retirer. Croque-vieille, pour faire raquer les parents, elle était là, mais quand il s'agissait de payer de la nouveauté, il n'y avait plus personne. Les seuls ballons d'eau chaude qui étaient neufs, c'étaient ceux des douches communes. Quelqu'un avait frappé à la porte. Fontanelle n'avait pas ouvert. Il avait juste maugré « putain de voisin » et s'était resservi à boire dans son verre de cuisine. Pendant que Fontanelle racontait, Philippe n'avait pas bougé. Il avait bu de longues rasades de vodka pour brûler la douleur, noyer le chagrin à intervalles réguliers. Geneviève a paniqué. Elle a dit qu'elle voulait pas aller en prison, que si quelqu'un savait qu'elle était partie voir ses gosses, elle ramasserait pour tout le monde. Elle m'a supplié de l'aider. Au début, j'ai dit non. Et puis, comment veux-tu que je t'aide? J'ai fait. On dira la vérité, que c'est un accident. On trouvera le taré qui a fait ça. Elle est devenue folle. Sa figure s'est déformée. Elle m'a injuriée, menacée. Elle a dit qu'elle raconterait à toute la clique des flics que je matais les monitrices, qu'elle m'avait vu piquer leurs culottes dans le linge sale, qu'elle avait des preuves. Je lui ai mis une grande baffe pour qu'elle la ferme. Et puis j'ai repensé que, quand j'étais à l'armée, une nuit, un troufion avait cramé une partie de la caserne en oubliant une casserole de bouffe sur un gaz mal éteint. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Avec le feu, il y a tout qui disparaît. Quand tout brûle, personne va en tôle. Surtout si c'est des petites gosses qui font une connerie en oubliant une casserole de lait sur le feu. À cet instant, Philippe aurait voulu demander à Fontanelle de se taire. Mais il était incapable d'ouvrir la bouche, de prononcer le moindre mot. Il aurait voulu se lever, partir vite, fuir, se boucher les oreilles. Mais il restait figé, tétanisé, impuissant, comme si deux mains glacées le maintenaient fermement cloué sur sa chaise. C'est moi qui ai foutu le feu aux cuisines. Geneviève qui a mis les bols dans la chambre des petites. J'ai attendu au bout du couloir en laissant leur porte entrouverte. Geneviève est montée dans notre chambre. Depuis cette nuit-là, elle n'a plus jamais arrêté de chialer. Elle avait peur aussi. Elle disait que toi ou ta femme, vous finiriez par venir lui faire la peau. Quelques tremblements avaient traversé Philippe, comme s'il recevait des décharges électriques à travers des électrodes invisibles. Quand les flammes sont entrées dans la chambre, j'ai couru à l'étage pour donner des grands coups de pompe dans la porte de l'hôtelier. Je me suis planqué avec Geneviève dans notre piole. Lindon s'est réveillé. Elle est redescendue au rez-de-chaussée. Elle a hurlé quand elle a vu le feu. J'ai fait comme si je sortais du lit, comme si je comprenais rien à ce qui se passait. L'hôtelier a voulu entrer dans la chambre, mais c'était trop tard. Les flammes étaient trop hautes. On a fait évacuer tout le monde. Le temps que les pompiers arrivent, tout avait disparu. On aurait dit l'enfer, mais c'était bien pire. Lindon a jamais osé demander à Geneviève où elle était ce soir-là. Pourquoi et comment les petites s'étaient relevées pour aller dans les cuisines sans que personne s'en rende compte. Parce que tout ça, au fond, c'était sa faute. On n'a jamais su qui avait remis le chauffe-eau en route, ni pourquoi, ni à quel moment. Tu penses bien que j'ai regardé dans les autres chambres. Personne n'y avait touché. Et j'ai jamais rien dit. Philippe avait perdu connaissance. Il avait rouvert les yeux, la tête lourde, la bouche pâteuse, des braises dans le ventre. Alain Fontanelle était toujours assis à la même place, le regard dans le vide, les yeux injectés de sang, son verre de cuisine à la main. Il n'avait pas fumé la cigarette qu'il tenait encore entre les doigts. La cendre était tombée sur la toile cirée. « Me regarde pas comme ça. Je suis sûr et certain que c'est pas Geneviève qui a fait ça. Me regarde pas comme ça, je te dis. Je suis un sale type. On m'évite. Quand les gens me croisent, ils changent de trottoir. Mais j'ai jamais touché aux cheveux d'un gosse. » Geneviève Magnan fut inhumée le 3 septembre 1996. Ironie du sort ou hasard malheureux, le jour où Léonine aurait dû fêter ses 10 ans. Quand on l'enterra dans le caveau familial du petit cimetière de la Biche aux Chailles, à 300 mètres de chez elle, Philippe était déjà rentré dans l'Est, au bord des trains. Durant l'hiver 1996-1997, il n'alla pas à l'adresse et laissa sa moto dormir au garage. Ses parents vinrent le chercher une fois, en janvier, pour se rendre au cimetière de Brancion, se recueillir sur la tombe de Léonine. Il refusa de monter dans la voiture, comme un enfant buté, comme quand il partait en vacances chez Luc et Françoise, malgré la réprobation de sa mère. Il passa 6 mois à jouer sur sa Nintendo, à s'abrutir devant des jeux où il devait sauver une princesse. Il la sauva des centaines de fois, à défaut de n'avoir pas pu sauver la sienne, la vraie. Un matin, entre le rituel des tartines chaudes et du déjeuner, Violette annonça à Philippe que la place de gardien de cimetière se libérait à Brancion-en-Chalons et qu'elle voulait cette place plus que tout au monde. Elle lui dépeignit un certain bonheur. Elle lui décrivit le poste comme une place au soleil, des vacances 5 étoiles. Il la regarda comme si elle avait perdu la raison. Pas à cause de sa proposition, mais parce qu'il comprit qu'elle lui offrait de continuer à vivre ensemble. Au début, par réflexe, il dit non, parce qu'il pensait que c'était pour se rapprocher du vieux gardien de cimetière, mais ça ne tenait pas debout. Si elle avait voulu s'en rapprocher, elle aurait quitté Philippe et se serait installée chez lui. Il comprit qu'elle voulait continuer, qu'il faisait partie de ses projets, de son avenir. L'idée de devenir gardien de cimetière lui fit horreur. Mais il n'aurait rien de plus à faire qu'à Malgrange. Violette gérerait tout. Et puis, qu'aurait-il pu faire d'autre? Il avait eu un rendez-vous à l'agence pour l'emploi la veille, on lui avait dit de mettre son curriculum vitae à jour. À jour de quoi? À part bricoler des motos et séduire des femmes faciles, il ne savait rien faire. On lui avait proposé une formation en mécanique pour travailler dans un garage ou chez un concessionnaire. Il présentait bien, il pourrait aussi se reconvertir dans la vente. La vision de lui en commercial, commissionnant sur des bagnoles et les contrats d'entretien qui vont avec, le dégoûtait. Le réveil qui sonne, alors que pour lui il ne sonnait jamais, des horaires à respecter, le costume cravate, les 39 heures par semaine, autant mourir. Un cauchemar inenvisageable. Il n'avait jamais eu envie de travailler, sauf à 18 ans, dans le garage de Luc et Françoise. En acceptant ce boulot de croque-mort, un salaire continuerait à tomber chaque mois, un salaire auquel il ne toucherait pas. Violette ferait les courses sur le sien, la cuisine, le ménage. Il garderait sa femme au chaud dans son lit, ses tartines grillées, les draps et la vaisselle propre. Il n'aurait qu'à faire déménager ses habitudes, la marque de ses yaourts préférés, et continuer sa vie d'éternel adolescent. Comme Violette l'avait dit, elle mettrait des rideaux aux fenêtres de leur maison et il n'aurait pas à assister aux enterrements. Il installerait sa Nintendo dans une pièce fermée et sauverait les princesses les unes après les autres pour éviter d'être dérangé par un fossoyeur ou un visiteur perdu cherchant une tombe. Enfin, ce serait l'occasion de savoir qui était le fils de pute qui avait réactivé le chauffe-eau dans la nuit du 13 au 14 juillet 1993 au château de Notre-Dame-des-Prés. Il serait sur place pour poser des questions, casser quelques dents, faire parler le silence. Il le ferait en secret, pour que jamais personne ne vienne reprendre ou réclamer l'argent de l'assurance qu'il avait touché, les dommages et intérêts versés suite au décès accidentel de Léonine. Cette manie de tout mettre de côté, comme sa mère le lui avait appris, le révulsait, mais c'était plus fort que lui. Une maladie génétique, un virus, une bactérie mortelle. Cette pingrerie, c'était comme une malformation congénitale, un héritage maudit contre lequel il ne pouvait lutter. Mettre de côté pour aller où? Pourquoi faire? Il n'en avait aucune idée. Ils déménagèrent en août 1997. Ils firent le trajet dans une camionnette d'à peine 20 mètres cubes. Ils ne possédaient pas grand-chose. Le vieux du cimetière n'était plus là. Il avait laissé un mot sur la table. Philippe fit semblant de ne pas s'apercevoir que Violette connaissait parfaitement chaque recoin de la maison. À peine débarquée, elle disparut dans le jardin. Elle l'appela, lui dit de venir voir. « Viens, viens vite !» Philippe n'avait pas entendu ce sourire dans sa voix depuis des années. Quand il la découvrit, accroupie au fond du potager, cueillant de grosses tomates rouges comme des joues de jeune fille, quand il la vit croquer dans l'une d'entre elles, cela lui rappela l'éclat qu'elle avait dans les yeux à la maternité, le jour de la naissance de Léonine. Elle lui dit « Viens goûter !» Il eut d'abord un mouvement de recul. Puis, il vit que le jardin était trop en amont pour que les eaux usées du cimetière s'y déversent. Cependant, il lui sourit péniblement, se força à croquer dans la tomate qu'elle lui tendait. Du jus coula sur ses mains. Violette les saisit et lécha ses doigts. Il comprit à cet instant qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer, mais qu'il était trop tard, qu'on ne revient pas en arrière. Il sortit sa moto de la camionnette et dit à Violette : « Je vais faire un tour. »